franceinter.com.
Bonjour, chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
La naissance de l'euro.
J'ai eu un pincement au cœur quand j'ai vu les nouveaux billets français. Bon, je trouve que le choix qui nous a été proposé est assez bon, que ces billets sont assez jolis. Le chancelier Kohl a tout de suite remarqué que les couleurs n'étaient pas assez vives pour que les gens qui n'ont pas une bonne vue puissent éviter de faire des confusions.
C'était en 1996, le président Chirac découvrait les projets de billets en euros avec au verso des ponts, au recto des fenêtres et des portails, lesquels, 15 ans après, ouvrent maintenant sur l'inconnu des faux organisés en bon ordre ou débâcles de la Grèce, bond en avant vers une gouvernance plus fédérale de l'euro ou défaillance rebondissante. Après une période calme, celle de ses débuts, le devenir de l'euro n'est pas facile à prévoir. Mais sa naissance, à laquelle nous allons nous attacher aujourd'hui, n'est pas si facile non plus à reconstituer. 1988, la relance de l'idée de monnaie unique, 1989, l'hésitation, 1991, Maastricht, 1992, sa difficile ratification et la tourmente déjà de la spéculation, etc. Ce ne fut pas une promenade en forme de saut et gambade. Le projet a dû passer par beaucoup de défilés, essuyer des tirs croisés de tous les côtés. Récit de la ruée vers l'euro, un western politique avec Thomas Clau. Bonjour.
Bonjour.
Alors, comme vous avez fait vos études à Versailles, à Oxford, à Heidelberg, à Tübingen, vous allez pouvoir nous traduire dans toutes les langues le mot think tank. Vous appartenez à un think tank européen?
Alors, le joli mot français que beaucoup emploient, c'est boîte à idées.
Ou remue-ménage.
Chose remue-ménage, voilà. C'est un centre d'analyse, de réflexion, de conseil politique.
Alors, comment les ménages se sont agités dans les années qui ont précédé la naissance de l'euro? On va se placer du côté des artisans, comme dans un livre que vous avez fait autrefois avec Jean Quatremer. Ces hommes qui font l'euro, artisans plus ou moins volontaristes, selon les cas. C'est important, l'atmosphère entre les hommes.
C'est essentiel. On oublie souvent quand on regarde l'histoire, quand on fait de l'histoire, c'est-à-dire rétrospectivement, que ce ne sont pas là un enchevêtrement de processus inéluctables, mais qu'il y a des décisions prises, bien sûr, souvent par des collectifs, comme des électeurs, mais parfois par des individus. Et que le rôle personnel des individus, leur conviction intime, le fait qu'à un certain moment ils disent oui ou non, peut avoir, et on le voit très bien dans la construction de l'euro, une influence absolument décisive.
Depuis les années 70, on rêve d'un système monétaire européen. La première impulsion vient de là, avec des hommes comme Valéry Giscard d'Estaing.
Comme Valéry Giscard d'Estaing, en réalité, la première fois, ou une des premières fois que le mot est apparu dans un communiqué d'un Conseil européen qui ne s'appelait pas encore comme ça à l'époque, c'était en 1970, on a compris très vite. À l'époque, c'était à la lumière de ce qu'on appelait les turbulences agrimonétaires des fonds de la politique de cohésion agricole européenne, que la coexistence de quelque chose qui n'était pas encore un marché unique et de fluctuations de monnaie entre les pays qui composent ce marché, qui était évidemment embryonnaire à l'époque, pose problème. De là est née l'idée qu'il fallait finalement aller d'abord vers un système de taux de change contrôlable, et quand ça n'a pas marché, une monnaie unique.
Alors, le système monétaire européen imagine des taux de change fixes mais ajustables. C'est l'esquisse. Après, il y a une éclipse. Et puis, des hommes à la racine d'une relance en 88.
Absolument. Je crois qu'il faut citer trois noms en particulier. Il faut citer le nom de François Mitterrand, président de la République française à l'époque. Il faut citer le nom de Helmut Kohl, le chancelier allemand. Et il faut citer le nom de Jacques Delors, qui devient en 85 président de la Commission européenne. C'est ce que Hubert Védrine a appelé à juste titre un triangle magique. Trois grands stratèges de la politique qui ont mis de manière croissante l'Europe et surtout ce projet difficile de monnaie unique au cœur de leur action politique. Il ne faut pas oublier que le projet paraissait fou à beaucoup, notamment aux opérateurs des marchés, aux commentateurs économiques, à beaucoup d'analystes politiques qui ne croyaient jamais que les États allaient réussir à fusionner leur monnaie.
Notamment aux banquiers. Alors l'idée de faire présider un groupe de réflexion par Jacques Delors, président de la Commission européenne, et d'y associer des banquiers centraux, ça c'est une bonne idée.
Ça c'était une idée absolument primordiale. Delors avait eu la grande intelligence de commencer avant même ce processus à assister dans son rôle de président de la Commission aux rencontres régulières et très discrètes des banquiers centraux à Bâle, n'est-ce pas, au siège de la Banque internationale de règlement. Et il les avait familiarisés à sa présence. Et quand la décision a été prise en juin 88 de constituer un comité qui proposerait l'architecture de l'euro, très intelligemment, on a demandé aux banquiers centraux sceptiques, puisque chacun gardait sa boutique, sa banque centrale nationale, sa monnaie, de constituer ce comité et de le faire présider par Delors. Et comme ils avaient l'habitude que Delors arrive, très calme, très, très modeste, ils ont accepté de le faire. Et il s'est passé cette chose extraordinaire que ces gens, profondément, dont beaucoup étaient profondément sceptiques et même hostiles à l'idée au départ, ont sorti ensemble un rapport, ce qui a même suscité une dynamique et un enthousiasme qui a fait ouvrir les bouteilles de champagne à la fin.
Les passes conceptuelles sont jetées par ce rapport. Traduction dans le langage radiophonique, nous sommes en avril 89 sur France Inter.
Branchez-vous donc européen, vous pouvez le faire dès ce matin sur Minitel. Les 12 sont désormais sur le 3615. En composant le code CEE, on pourra disposer de toutes les informations concernant la communauté. Tout cela au moment où, dans le rapport qu'il vient d'envoyer au chef de gouvernement, le comité Delors propose dans le détail les phases pour réaliser l'union monétaire totale. Jacques Delors au micro de Quentin Dickinson.
L'ambition est là, elle a été fixée par les chefs d'État et de gouvernement. Les moyens que nous proposons sont clairs et réalistes.
Est-ce que, Monsieur le Président, ce plan prévoit la disparition des monnaies nationales ?
Oui, une fois que nous aurons réalisé cette convergence plus grande de nos économies, qui nous rapportera déjà beaucoup, je le répète, en termes de prospérité et d'emploi, il arrivera un moment où il n'y aura plus de dévaluation ou de réévaluation des monnaies. Et à ce moment-là, pourquoi pas une monnaie commune ?
1989, c'est le rapport Delors, et ensuite va tomber le mur de Berlin, et on dit couramment que commence alors une période d'hésitation. Le chancelier Kohl pouvait bifurquer vers d'autres voies que celles qu'il avait choisies originellement en 88.
Le chancelier Kohl doit mener cet exercice extraordinairement difficile, aussi bien partiellement en termes de politique intérieure que de politique européenne internationale, qu'est la réunification. Et il n'a jamais, je pense qu'il faut le dire avec force, hésité sur le fond. Mais pour des raisons de cuisine électorale interne, il a hésité avant de s'engager sur les étapes contraignantes du processus. Et à un moment, les deux sujets se sont en quelque sorte enchevêtrés. Et Kohl a accepté, sous une certaine pression française, de lancer le processus de négociation du traité de Maastricht, qui devait donc donner naissance à la monnaie unique, à une certaine date. Donc il y a eu un effet de levier pour faire accepter, pour faciliter l'accord final de Kohl au lancement du processus. Je crois qu'il est faux de dire, comme beaucoup le font, que l'euro était le prix à payer par l'Allemagne ou qu'a dû payer l'Allemagne pour que la réunification soit acceptée. On voit d'ailleurs très bien que le processus a été lancé en 88, bien avant la chute du mur de Berlin.
Donc ce n'est pas un marché donnant-donnant. François Mitterrand, décontenancé par l'unité allemande, dit « je vais l'approuver, en échange, vous prenez un engagement définitif ».
Les deux leaders franco-allemands ont voulu l'euro avant la chute du mur de Berlin, à une époque où personne ne concevait que ça allait se faire 18 mois après. Oui, il y a eu un effet de levier, mais ça n'était pas un marché, ça n'a jamais été.
François Mitterrand à la télévision, le 10 décembre 89, donc peu après la chute du mur et la reprise des négociations avec le chancelier Kohl, interrogé par Jean-Pierre Alcabache.
Une monnaie pour l'Europe, pour la communauté, et au bout du compte, un organisme central, une banque. Il faudra plusieurs années pour y aboutir, mais enfin, il fallait au moins donner le top.
Il y avait une crise, ou un malaise, en tout cas avec Bonn. Un certain froid. Comment vous avez convaincu M. Kohl ?
Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis, M. Stolino ?
Je crois beaucoup de circonstances. Je pense que l'esprit public en Allemagne, le chancelier Kohl le disait, s'il faisait voter les Allemands là-dessus, ce serait sans doute régalé. Vous savez, l'Allemagne dispose d'une grande puissance économique. Son commerce international est extrêmement actif, extrêmement puissant. Et je pense qu'il y a tout un fond de réaction en Allemagne qui dit pourquoi est-ce qu'on renoncerait à être seul possesseur de cette situation ? Et aller partager la décision avec d'autres dont la situation est moins bonne.
Ce que François Mitterrand appelle l'esprit public, c'est à la fois l'opinion, avec ses fluctuations, et le tempérament national, à quoi on est fidèle quand on appartient à une patrie.
Tout à fait. Il faut se souvenir que le Deutsche Mark était non seulement pour l'Allemagne un réel outil de puissance, économique mais politique, aussi, mais pour les Allemands dans leur ensemble, un vrai sujet de fierté nationale. L'Allemagne était divisée à l'époque, il y avait le mur. La fierté nationale ne pouvait pas s'exprimer dans un patriotisme classique comme elle existait en France, pour des raisons historiques, notamment la Seconde Guerre mondiale. Le Deutsche Mark est devenu quelque part le dépositaire d'un sentiment vraiment très fort, et c'est un miracle politique que Kohl a réussi à faire avaler cette pilule à l'électorat allemand. S'il y avait eu un référendum, c'est ce à quoi François Mitterrand fait allusion, jamais l'euro ne serait passé en Allemagne. Et pourtant, les Allemands ont réélu pendant de nombreuses années Kohl à la chancellerie, son parti, sachant que le remplacement du Deutsche Mark par ce qui ne s'appelait pas encore l'euro était au cœur de sa politique européenne.
Alors, au cœur de votre réflexion depuis longtemps, le rôle des hommes, ces hommes qui ont fait l'euro, c'est le titre d'un livre que vous avez publié naguère avec Jean Quatremer, Thomas Klaus. Kohl, dites-vous, a autant de patriotisme européen que de patriotisme allemand en lui.
J'ai eu la chance de pouvoir entendre parler Kohl en off, comme disait le journaliste, à de nombreuses reprises sur sa manière et les raisons profondes pour lesquelles il voulait la monnaie unique. Il a toujours vu la monnaie unique comme un catalyseur d'une intégration plus profonde. Il savait que l'union monétaire elle-même était bancale si elle ne reposait pas, si elle n'était pas accompagnée d'une union, d'une véritable intégration politique, plus forte que celle que l'Union européenne a encore aujourd'hui. Il pensait que ce serait levier. Il a toujours pensé que l'Allemagne, c'était sa formule, n'est pas assez forte pour dominer l'Europe, mais est trop forte dans l'Europe pour être un État comme les autres. Que donc, tant que les États nationaux restent le système d'organisation de l'Europe, il y a un déséquilibre dangereux au cœur même du continent, qu'il faut surmonter par la création d'une véritable, de ce qu'on pourrait appeler une fédération européenne.
La vérité d'un homme dans des moments de négociation difficiles comme ceux que vous avez suivis, c'est quand il vous reçoit, c'était souvent le cas de Kohl, dans sa maison, en cardigan, presque en chaussons très détendus, est vrai.
Très vrai. Kohl est quelqu'un qui a toujours gardé, certains intellectuels ou journalistes allemands lui ont reproché, ce côté provincial, ce côté simple. Il a mis l'accent là-dessus, il a publiquement montré une certaine défiance ou une distance vis-à-vis du monde des intellectuels, vis-à-vis du monde académique, vis-à-vis du monde des capitalistes, même, pourrait-on dire. Il a gardé ce côté terroir. Je crois que ça a été un élément essentiel de sa cuisine politique électorale. C'était son identité, mais il s'en est servi parce que ça contribuait fortement à rassurer les électeurs conservateurs dans les campagnes allemandes. Parce qu'il ne faut jamais oublier que c'est un homme de droite qui représentait un parti, non pas nationaliste, mais qui véhiculait une certaine tradition conservatrice, qui a été celui qui a remplacé en Allemagne la monnaie nationale par une monnaie européenne. C'est quelque chose auquel un homme de gauche serait arrivé sans doute avec beaucoup plus de difficultés et peut-être pas du tout, je pense.
Jusqu'ici, on a parlé en franco-allemand. Vous allez voir que ça va changer. Quand vient le moment de fixer les tables de la loi et que le lieu est choisi pour la négociation Maastricht, le président Mitterrand, allez, encore une allusion au rôle des Français, arrive pour une fois à l'avance, ce qui est quand même extraordinaire, ce qui prouve que le moment est important. Décembre 91.
France Inter.
La ville de Maastricht, qui se trouve dans le sud des Pays-Bas, va peut-être rentrer dans l'histoire de l'Europe. C'est là que sera sans doute modifié le fameux traité de Rome de 1957 qui a lancé la communauté économique européenne. De Maastricht, Philippe Bardeneau.
Si demain après-midi, les chefs d'État et de gouvernement se séparent sur l'accord que tout le monde attend, l'histoire retiendra que l'UEM, l'Union économique et monétaire, la fin des monnaies nationales, est née à Maastricht, ville frontière des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne. Ville d'un peu plus de 100 000 habitants, totalement reconstruite après la dernière guerre, à l'exception de sa cathédrale et de son hôtel de ville. Les conférences vont avoir lieu dans un ultra-moderne, impersonnel et froid centre international. Hier, le président Mitterrand s'est entretenu avec l'Italien Andreotti, mais à vrai dire, ce que tout le monde attend, c'est une clarification de l'attitude britannique. L'Angleterre, politiquement attachée à son insularité, a d'ores et déjà réclamé une clause d'exception en ce qui concerne l'UEM, la monnaie unique, réclamée par les plus convaincus des Européens continentaux, qu'ils soient banquiers ou industriels, ne semble pas tenter grand monde outre-Manche. Et la fameuse troisième phase de l'UEM pourrait bien démarrer sans les Anglais. C'est l'un des enjeux essentiels du sommet qui commence aujourd'hui. L'ouverture des travaux est prévue à 10h. En fait, tout a commencé depuis déjà bien longtemps. Maastricht, Philippe Bardeneau, France Inter.
les tables de la loi de l'Union économique et monétaire, UEM, discutées à Maastricht. Tout a commencé depuis longtemps, mais à nous entendre, restituer les conditions de la naissance de l'euro, tout se serait passé seulement entre la France et l'Allemagne. Mais il y a d'autres pays dont on entend enfin parler.
Il y a d'autres pays, il y a évidemment les pays du Benelux, très favorables. Il y a l'Italie, très favorable. Et puis la Grande-Bretagne, ça ne surprend pas, sceptique, hostile, qui a finalement accepté un modèle qui permettait aux autres d'avancer et qui permettait à la Grande-Bretagne de rester dehors. Elle l'a fait, il faut le dire, en pensant qu'à l'époque de Maastricht, que jamais cela ne se ferait. N'est-ce pas l'immense majorité des commentateurs, des observateurs, des acteurs politiques britanniques n'ont pas cru un instant que ce projet fou, de leur point de vue, de fusionner les monnaies européennes du continent, ou en tout cas une bonne partie de ces monnaies européennes, à commencer par le franc et le Deutsche Mark, pourraient réussir dans un futur prévisible.
La Grande-Bretagne quitte le navire tout en signant le traité, en disant que sa signature n'aura de valeur que s'il y a ratification par le Parlement de Westminster. Je sais que vous êtes europhile, on le devine en vous entendant. Soit dit en passant, la Grande-Bretagne ne se porte pas plus mal d'avoir gardé la livre sterling. C'est redit ça en confidence.
Elle a un système économique ou une réalité économique dominée par les marchés financiers, l'industrie, ce qu'on appelle maintenant l'industrie financière, l'industrie des services financiers, qui la rend très différente des économies continentales. Et on peut dire rétrospectivement que ne pas être dans l'euro la sert plutôt que la dessert aujourd'hui.
Alors le traité de Maastricht définit un calendrier. C'est toujours comme ça que ça fonctionne dans la construction européenne, avec des horloges, les horloges servant de levier.
Tout à fait. C'était une des surprises importantes et essentielles. Et ça nous ramène au rôle que jouent les hommes ou les femmes dans la politique, que se déroulaient des négociations où le chancelier Kohl soudain surprend sa propre délégation, mise et finances, et de manière moins formelle, le représentant de la Banque centrale, en acceptant la demande française d'une date butoir, 1er janvier 1999, pour l'introduction de la monnaie unique qui ne s'appelait pas encore à l'époque l'euro. On peut dire aujourd'hui, je crois, avec justesse, que s'il n'y avait pas eu cette date butoir, cette date limite, jamais l'euro ne se serait fait. Kohl le comprenait très bien. Il y avait une hostilité très forte au sein même de son gouvernement, par parti de coalition, dans la Banque centrale allemande, la Bundesbank, contre cette date butoir, qui risquait de faire passer l'euro à un moment où on pensait que les économies européennes ne seraient pas encore prêtes. Kohl a dit oui. Kohl a posé un acte, si vous voulez, autoritaire, quasi non démocratique, mais un acte nécessaire pour faire basculer le processus vers quelque chose d'inéluctable.
Les corps électoraux peuvent dérégler les horloges. Alors Maastricht est soumis à ratification, les Danois refusent. Ça se passe en France de justesse. François Mitterrand et ses muses, parce qu'en effet, il y avait beaucoup de femmes qui s'occupaient d'Europe avec lui, jetant dans l'affaire ses dernières forces. On ne se souvient pas qu'aussitôt qu'après la ratification par l'opinion française, le ministre des Finances de l'époque, Michel Sapin, est réveillé en pleine nuit. Il est encore en train de goûter les joies de la victoire et on lui explique que le franc vacille.
Le référendum français de Maastricht qui passe de justesse a été décidé sans consultation avec les Allemands, en tout cas contre l'hostilité violente de Kohl. Il y avait eu le référendum danois. Peu après, il y a eu donc une déstabilisation d'une perte de confiance des marchés dans la capacité de l'Europe politique d'amener quelque chose qui, de toute façon, était déjà mis en doute par beaucoup. Et puis, il y a eu une accumulation de tensions qui n'avait pas été vue suffisamment dans les années précédentes. On retrouve une partie de ce qui se passe maintenant, à la suite de la réunification allemande, qui font que le système, que la gestion du système monétaire européen, donc garder des taux de change qui fluctuent, mais de manière très contrôlée, très limitée, explose à la suite d'une vague de spéculation qui met en lumière, on se retrouve dans l'actualité d'aujourd'hui, les failles du système, les points faibles, et qui en profitent pleinement.
Les marchés voient les failles. Mais du côté français, quand la monnaie, encore nationale, est attaquée, je pense à la réaction de Jean-Claude Trichet, qui est à l'époque directeur du Trésor au ministère des Finances. On finit par s'en sortir, mais les Allemands, dit-il, se sont comportés comme des chiens. Il y a eu un soupçon jeté sur le rôle de l'Allemagne.
Il y a eu énormément de soupçons. Il y a eu des scènes extrêmement violentes, larvées. Finalement, l'Europe politique s'en est sortie parce que les liens qui unissaient les politiques étaient plus forts que la méfiance.
Et puis parce que Kohl aussi a joué un rôle positif, il pouvait aller contre sa délégation, il pouvait même passer par-dessus la Bundesbank. Les conclusions de cette période difficile, septembre noir, tiré par Jacques Delors en septembre, à la fin de septembre 1992.
Le système monétaire européen, on l'a vu, est ébranlé par les événements. Ça signifie quoi? Échec de l'Europe monétaire?
Dans le nouveau traité, le Conseil des ministres pourra publiquement délivrer un carton jaune à l'avance à un pays qui fait des bêtises.
Comment éviter que le marque ne dicte sa loi aux autres monnaies, monsieur Delors?
En faisant l'union économique et monétaire, c'est-à-dire chacun d'entre nous ayant son mot à dire pour gérer une monnaie unique, l'écu qui sera à ce moment-là, pourra parler d'égal à égal avec le dollar.
La boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère.
La boulangère a des écus qui ne lui coûtent guère.
Elle en a, je les ai vus, j'ai vu la boulangère aux écus, j'ai vu la boulangère.
J'ai vu la boulangère aux écus, j'ai vu la boulangère.
Les mains dans la caisse et dans le sang, c'est la danse des écus. Les mains dans la caisse et dans le sang, depuis 40 ans. Gardez les pieds sur terre, ou bien vous acceptez en vous bouchant les narines, c'est écœurant.
Toutes les filles de Paris,
toutes les filles de Paris,
de Montmartre à Saint-Denis,
de Montmartre à Saint-Denis,
ont vendu leurs chemisettes, leurs jarretières, leurs collerettes, pour avoir un petit écu,
pour apprendre à jouer de l'épinette,
pour avoir un petit écu. Apprendre à jouer du
troulala, 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 troulala.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Thomas Clau, nous parlons aujourd'hui de la naissance de l'euro. L'euro, mais attendez, dans le traité de Maastricht, c'est le mot écu qui était inscrit dans le traité.
Ça n'est pas le mot écu, c'est une abréviation. Ah. European Currency Union.
En majuscule.
Oui. En majuscule, que Valéry Giscard d'Estaing avait trouvé, enfin il en réclame la paternité, et qui en français sonne très bien, écu. En allemand, c'est déjà beaucoup plus difficile. Écu, écu, mais ce qui n'est pas une prononciation germanique. Donc, débat. Avec toutes sortes de mots qui circulent, propositions, florin, gulden, euro-franc, euro-marc,
euro-lire. Kohl, il ne veut pas de l'écu.
Ah non, Kohl ne veut pas de l'écu.
Il
parce
veut
que...
de l'euro.
Non, pas encore. Personne ne sait ce que ça va donner. Mais il ne veut pas de l'écu parce qu'il dit, à juste titre, je trouve d'ailleurs en tant qu'allemand, que écu, c'est un mot qui était très bien en français, mais qui fonctionne beaucoup moins bien en allemand, et que ça n'était pas écu, c'était European Currency Unit, abrévié écu.
Voilà, et puis dans euro, il y a Europe. On me dirait que c'est assez proche de Oura, urine en grec, mais personne n'écoute les Grecs de toute façon.
Rien n'était parfait.
Dites-moi, il nous reste quand même, dans cette histoire cursive de la naissance de l'euro, à parler de la manière dont le pacte de stabilité à partir de 1995 est conçu. Dominique Strauss-Kahn essaye d'expliquer, les ministres de l'économie de Lionel Jospin, sous Jacques Chirac président, à Theo Weigel, le ministre allemand des Finances, qu'il faudrait un gouvernement économique, alors que les Allemands pensent plutôt gouvernement budgétaire. Dites-nous la différence.
Elle n'a jamais apparu très clairement. Les Français disaient gouvernement économique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un autre mot. Un gouvernement écologique, ce serait quoi, n'est-ce pas? Les Allemands disaient union politique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, ni la France, ni l'Allemagne, ni les autres pays qui participaient n'étaient réellement prêts à une véritable délégation du pouvoir de contrôle budgétaire, fiscal, ou bien à une instance commune qui aurait un droit de veto, ou bien à une instance commune qui aurait, par exemple, le droit de lever des impôts et de régler la dépense.
Enfin, gouvernement budgétaire, on voit bien ce que c'est quand même. C'est négocier dans une marge de manœuvre étroite entre un excédent budgétaire éventuel et puis le plancher de 3% de déficit.
Le pacte de stabilité que vous venez d'évoquer est en quelque sorte le palliatif à l'absence du gouvernement économique. C'est pour ça qu'il a été mis en place. Il n'a pas très bien marché, il faut le dire, à la lumière des événements d'aujourd'hui. Mais c'est un début de réponse apporté en 1995, parce qu'on savait bien qu'il fallait quelque chose et que quelque chose manquait.
Pacte de stabilité, de croissance, les Français obtiennent. Absolument. Et de croissance au sommet de Dublin fin 1996, où Jacques Chirac s'agite beaucoup. Vous dites que les Allemands l'espionnent jusque dans les toilettes?
Non, mais il se trouve par hasard que le président de la République... sans doute satisfaisant un besoin tout à fait naturel, a répondu au téléphone ou a pris son téléphone en parlant un peu haut pour communiquer avec d'ailleurs des membres de la délégation française ou des gens restés à Paris, ça, nous n'avons pas pu le savoir. Et par le plus grand des hasards, un membre de la délégation allemande, les cloisons sont parfois bien minces dans ce genre d'endroit.
Et le président parle fort.
Et le président parle fort, voilà.
Mais pendant cette même période, heureusement que le président Chirac est là, je parle du point de vue français, les gouverneurs des banques centrales auraient bien choisi tout seul leur grand chef. Alors ils se mettent d'accord autour de Duisenberg, le banquier central néerlandais, mais colère froide de Jacques Chirac, qui ne veut pas d'un mandat de 8 ans de Duisenberg et négocie une scission du mandat. 4 ans pour Duisenberg et la suite pour Jean-Claude Trichet, qui n'est pas un ami personnel de Jacques Chirac. Mais voilà que Duisenberg fait encore des difficultés et en 1998, en mai, déclaration à la suite d'un sommet presque entièrement consacré à la question du président de la République française.
Très rapidement, M. Duisenberg nous a fait savoir qu'il ne souhaitait pas, pour des raisons personnelles, assumer ce mandat jusqu'à son terme. On ne rit pas. Il n'y a aucune raison. Chacun a ses raisons personnelles d'agir. Je ne doute pas un instant qu'il en aille de même pour vous. Donc, il avait fait savoir à la présidence que pour des raisons personnelles, il n'entendait pas assumer ce mandat jusqu'à son terme, mais qu'il serait heureux de porter l'euro sur les fonts baptismaux, c'est-à-dire à l'occasion du premier semestre de 2002.
C'était un compromis tortueux à l'époque. Finalement, ça a bien marché. Duisenberg a été un bon premier président de la Banque Centrale Européenne. Et chacun salue aujourd'hui à juste titre l'extraordinaire action de Jean-Claude Trichet dans les années calmes et les années
enfin, ça, c'est vous
les mois
dites,
violents,
je vous laisse la beaucoup responsabilité salue, de vos propos.
Je l'endosse pleinement.
Dites-moi, ce sommet de mai 98, auquel on va s'arrêter, il est consacré largement au gouverneur de la Banque centrale, mais il devait définir les pays éligibles. Il y en avait combien au total?
Il y avait les 11 du départ.
Les 11 du départ. On parlera peut-être une autre fois avec vous, Thomas Clao, de ceux qui les ont rejoints et dans quelles conditions, à la fin de 98, eh bien, le calendrier est tenu.
10 000 personnes sont mobilisées dans les établissements financiers français pour assurer le basculement entre le franc et l'euro. Pour l'instant, elles attendent de connaître le taux de conversion du franc en euro et cette nouvelle vient de tomber. L'opération se déroule en ce moment. Quant à Dickinson, la commission de Bruxelles propose au Conseil des ministres 1 euro pour 5 francs 55 957.
6 francs.
Oui, 6 francs, 957,
voilà, Gérard.
Ça commence très fort.
On aura le temps de s'y habituer. L'euro vaut donc, on va le répéter une nouvelle fois, 6 francs français, 55957. Ou alors, si vous préférez, outre-Rhin, 1 marque allemand, 95583. Ou oui. Encore 40 francs belgo-luxembourgeois, 3399. Je vous épargne les 7 autres devises. Voilà donc le résultat des consultations techniques de cette matinée que tout le monde ici qualifie, bien sûr, d'historique.
Et je voudrais rassurer les déposants qui seront inquiets, il est encore possible d'échanger les vieux billets en francs qu'ils peuvent conserver pour 20 francs, vous savez, Debussy, vous avez 3,05 € et ce jusqu'au 17 février 2012. La réalisation Jacques Sigal, la préparation Meryl Moneghetti, Frédéric Martin, à la technique Cédric Lalanne et Pascal Baldassari. Demain, nous parlerons de Chateaubriand.